m'approche de la... Voilà, faut mettre le micro sur la...
Ah, vas-y, là, il faut qu'on en
bas. Ouais, voilà. Ah, c'est bon. Bon, alors, nous allons... voilà, on est dans un peu ce que disait Karine et Marie tout à l'heure. On est avec les tables rondes, là. On s'engage dans la dynamique de ce nouveau plan d'orientation avec l'idée de nous donner mutuellement des briques pour les années qui viennent, pour l'année qui va s'engager après le Conseil national. Et on a choisi, donc on est dans de la population, et cette première table ronde, elle est consacrée à la première priorité qu'on se donne, sur faire église, en se disant que faire église ne vise pas. Donc ces tables rondes, là, ne visent pas à changer ou amender le projet du mouvement, on l'a depuis 2013. Il a été redéfini, mais il s'agit d'en mesurer toute la pertinence aujourd'hui, dans un nouveau contexte que Laurent a rappelé tout à l'heure, hein, une société de plus en plus multiculturelle, déchristianisée, et donc les choses sur notre mission d'évangélisation, sur le projet du mouvement, ça n'a pas changé, mais la façon de le faire, peut-être qu'il y a des choses à intégrer. Des choses qui sont peut-être moins faciles à faire qu'auparavant. Et puis, donc, cette table ronde s'inscrit à la suite du pape François, qui nous appelle dans sa lettre au peuple de Dieu à jouer tout notre rôle de baptisé. C'est donc pas simplement une question de gouvernance dans l'Église, même si elle existe, mais de se dire, voilà, comment nous, on joue notre rôle, et c'est en jouant notre rôle qu'on fait Église et qu'on participe aussi à la présence, au développement de l'Église dans la société. Et donc, on a choisi de creuser un ou deux aspects de cet axe. On ne va pas couvrir toutes les questions concernant le faire Église, hein, mais on veut insister un peu sur la mission d'évangélisation du mouvement qui nous appelle à aller vers ceux dont nous sommes éloignés, dont l'Église est éloignée. Les milieux indépendants, je pense par exemple, aujourd'hui, pas forcément de plein pied avec l'ensemble des responsables qui agissent dans la sphère financière, par exemple. La sphère financière, on fait enquête sur le bien commun, mais vous voyez que ça a des effets sur l'organisation du monde, dans notre société, mais aussi à l'échelle internationale. Comment on se rapproche de ces gens-là? C'est cette question-là. Dans le petit carrefour, on était tout à l'heure sur la préparation de rêver à la réunion d'entrée. Moi, j'ai bien apprécié. Il y a un territoire qui a proposé que la réunion de rentrée s'organise, et c'est parti de là, autour de l'écoute des personnes qui ne sont pas en mouvement. C'est-à-dire d'inviter des gens qui n'étaient pas en mouvement et de partir de là et de rentrer en discussion avec eux à partir de leur vie à eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlait pas de notre vie à nous, mais de dire, voilà, on s'intéresse d'abord à ce qu'il y a à l'extérieur et s'intéresser aux personnes invitées. Demain, on a le texte de la Samaritaine, hein, qui sera l'évangile du jour. Et si vous voulez, c'est bien comme ça que la dynamique se crée. Le Christ, il voit la Samaritaine, il lui demande de l'eau. Il ne dit pas, c'est moi Jésus, vous voyez, à la méthode, c'est moi la CI. Hein, vous voyez que dans l'identité de la CI, on est tenté de présenter notre image. Nous, la CI, voilà ce qu'on fait. Non, ce n'est pas la démarche de l'évangile de la Samaritaine. C'est donne-moi de l'eau, de rentrer dans une discussion. Et donc, c'est un peu ça qu'on va travailler dans la première partie. Donc, je vais passer la parole à... Alors, Jean-Christophe Houot, qui est avec nous à télédistance, le père Fonlu,
bonjour,
présenté, et puis Catherine Demange, qui est coordinatrice du territoire de Strasbourg. Donc, je vais commencer par passer la parole à Jean-Christophe, qui va intervenir un peu sur cet aspect-là de l'accueil des réalités vécues.
Vas-y.
Ben, merci, merci Marc. Désolé pour tous les bousculements que j'ai pu engendrer. Puis aussi merci pour accepter quoi, ma manière aussi d'exercer ma citoyenneté. Voilà, merci à vous et désolé pour le dérangement. Alors concernant la manière de faire église, j'insisterai sur le mot hospitalité, sur l'hospitalité, où on voit déjà dans un premier temps que c'est une présence. Et c'est ce que fait le Concile Vatican II. Il insiste avant tout sur la présence. Dans Agentes, au numéro 11, la priorité n'est pas l'enseignement, la liturgie ou les écrits évangéliques. Concernant l'œuvre missionnaire, c'est la présence. C'est déjà notre présence. Et Jésus avait une présence particulière qui était de susciter la foi des gens, susciter la confiance des gens. Il disait par exemple aux gens qu'il rencontrait sur sa route, « Va, ta foi t'a sauvé ». Il disait pas « Viens », il disait « Va » et non « Viens ». Il disait « Va » et il disait pas « Ma foi t'a sauvé », il disait « Ta foi t'a sauvé ».« Va, ta foi t'a sauvé ». Donc, autrement dit, son attitude, sa présence, c'était, pour prendre une image, un peu de souffler sur les braises d'un barbecue. Pour faire le barbecue, il faut souffler des fois sur les braises pour que, justement, la confiance reprenne. Et je pense que dans notre société, eh bien, on développe le meilleur de nos énergies dans la confiance. D'où l'intérêt, l'importance, à travers notre présence, de susciter la confiance des gens. Saint François d'Assise disait « Allez annoncer l'évangile, allez annoncer l'évangile ». Puis il ajoutait « Si possible, sans les mots ». Donc déjà à travers notre présence. D'ailleurs, le mot « présence » vient du grec « parousia », qui a donné le mot « paroisse ». Donc, quelle est notre paroisse? Est-ce que notre paroisse est une présence? Une présence qui dit à l'autre « tu peux, vas-y », qui fait autorité, qui invite l'autre à écrire sa propre vie. Donc, je pense que le premier point, c'est déjà d'avoir une présence qui suscite la confiance et non la méfiance. On a besoin dans notre société. Deuxième chose, une présence qui n'est pas simplement interne, au service interne de l'Église, mais une présence externe, une présence dans la société. L'Église, dans la nature même de l'Église, il n'y a pas la nature de l'Église et puis la mission. La nature même de l'Église est missionnaire. C'est quand on passe de Lumen Gentium à Agentes, on voit bien que la nature même de l'Église est missionnaire. On ne sépare plus les deux. Donc, deuxièmement, dans la société, pourquoi? Parce que l'Évangile nous dit « l'Esprit nous précède en Galilée ». Ou alors « la moisson est abondante ». Donc il y a déjà des choses à récolter dans notre société. Il y a du charisme dans notre société. La grâce est déjà dans notre société. Il y a déjà des dons dans notre société. Il ne faut pas sous-estimer notre société. Le pape, je crois que c'est le pape qui disait ça, ne mettons pas des robinets là où il y a des sources. Alors ça va bien avec l'évangile de demain. Ne mettons pas des robinets là où il y a des sources. Il y a des sources dans notre société. À nous d'être des sourciers. Je n'ai pas dit des sorciers, mais des sourciers. Pour faire ressortir justement les sources qui sont dans notre société. Donc là, la dynamique n'est plus d'être en conquête, mais bien en quête. Non pas en conquête, comme si on était à la conquête du territoire, mais d'être en quête des sources. Il ne s'agit pas d'implanter l'Évangile, il s'agit de percevoir l'Évangile déjà à l'œuvre dans la société. Non pas d'implanter, mais de percevoir l'Évangile à l'œuvre dans notre société. Donc il s'agit alors peut-être de se laisser surprendre par la grandeur de l'autre, chrétien ou non. Aller sortir, être en sortie, comme dira le pape, pour se laisser surprendre par la grandeur de l'autre, dans un premier temps, et dans un second temps, peut-être lui faire sentir que quelque chose de grand habite en lui. Se laisser surprendre par la grandeur de l'autre, chrétien ou non, et deux, lui faire sentir que quelque chose de grand habite en lui. Donc là, on aurait plus, non pas une pastorale du territoire, mais une pastorale de terroir. Aller puiser les sources du terroir. Ou aller rejoindre l'intime de tout homme, la profondeur de tout homme. Et puis enfin, je dirais, le troisième point, c'est avoir justement l'attitude de Jésus-Christ, vivre à la manière de Jésus-Christ, c'est-à-dire accueillir le meilleur de l'autre, faire ressortir le meilleur de l'autre. Mère Teresa disait, ne laissez jamais une personne venir à vous. Elle rigolait pas, la mère Teresa. Ne laissez jamais une personne venir à vous sans qu'elle ne reparte meilleure et plus joyeuse. Ne laissez jamais une personne venir à vous sans qu'elle ne reparte meilleure et plus joyeuse. Mais je pense que c'est notre travail d'hospitalité. Il s'agit de tout faire pour mettre les gens en bonne nouvelle. Mettre les gens en bonne nouvelle, faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de se donner tel un sacrifice, se sacrifier. Non, Jésus ne joue pas au sacrifice, sacrifier sa vie. Bon, c'est bien plus que se donner. C'est pas se donner, mais c'est donner envie à l'autre de se donner à son tour. Donc voilà pour terminer, juste une phrase. Donc tout faire pour donner la capacité à l'autre de se donner. Et je dirais, bah, nous, notre mission, c'est peut-être en tant que chrétien d'avoir cette nécessité intérieure, cet élan intérieur pour pas faire de la permaculture, mais je vais dire de la perma-résurrection, de la résurrection permanente dans notre société, à travers notre présence. Voilà.
Merci beaucoup, Christophe. Alors, je vais passer la parole au Père Fondu.
Est-ce que tu entends un peu
réagir?
Ouais.
Oui, merci. Bonjour.
Parle bien face du micro.
Bonjour à Jean-Christophe. Et puis bonjour à vous tous. Je me permets simplement en exergue avant d'entrer dans le débat que nous vivons, de vous saluer et de vous dire que je suis heureux de vous rejoindre au nom de l'ensemble des évêques, de vos diocèses et de l'ensemble des évêques de la conférence des évêques de France. Je suis là comme président du Conseil pour les mouvements et associations fidèles. Vous avez vu le père de Jean-Christophe Meyer, qui est par là aussi, je crois, vous l'avez présenté hier, voilà. Donc c'est aussi une manière de dire que la recherche que vous vivez, le travail que vous faites dans ce Conseil national est effectivement un travail important et précieux, non seulement pour votre mouvement, mais aussi précieux pour la vie de l'Église. Mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler demain. Donc je raccroche à la question qui nous occupe, pour prolonger par rapport à ce que nous proposait Jean-Christophe. Moi, j'ai noté ce qui me paraît important, c'est un premier enjeu qui soit un enjeu d'a priori de bienveillance. Ça vient consonner un peu par rapport au mot d'hospitalité. Qu'est-ce qu'il en est de notre capacité à regarder l'autre, à l'accueillir, à le rencontrer, à marcher avec un a priori de bienveillance, c'est-à-dire une préoccupation, une volonté, un désir, une soif de percevoir en l'autre tout ce qu'il peut y avoir de beau et de bien. Bon. Et c'est pas si simple que ça, il me semble. C'est pas si simple que ça parce que notre manière de vivre, et puis peut-être aussi les réalités que nous connaissons, hein, retraverser, c'est pas la peine de redétailler, mais retraversons un peu tout ce que nous avons vécu au fil de l'année, hein, depuis l'été dernier, ce que nous vivons, y compris en séjour. C'est plutôt des périodes qui font d'une notre société une société chaotique, hein, un peu cabossée, un peu en réaction, en confrontation, en opposition. Et tout ça, ça peut assez facilement provoquer des réactions de repli. On cherche à se réassurer, on cherche à se protéger, on cherche à s'affirmer dans les éléments qui sont les nôtres, quoi. Voilà. Donc il y a, je crois, très profondément, et pas parce qu'il le faudrait, mais parce que c'est... Je crois que c'est une source qu'on va puiser dans l'Évangile et dans la manière dont Christ rencontre les personnes. Il y a un véritable enjeu à nous interroger et puis à réfléchir, à nous interpeller et à travailler notre capacité à accueillir l'autre avec bienveillance. Et on ne se rencontre pas de la même manière si on est persuadé qu'on a à accueillir quelque chose de l'autre ou si au contraire... est plutôt fermé à ce qu'il nous semble être et à ce qu'on pense qu'il va nous dire, et si on veut être celui ou celle qui va lui faire la leçon, lui apporter telle ou telle chose, quoi. Donc je crois que c'est un peu ça qui peut fonder cette logique d'hospitalité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à accueillir, hein, et qu'est-ce que j'ai à recueillir, qu'est-ce que j'ai à moissonner. Une bienveillance qui ne soit pas distante, et donc ça nous interroge aussi sur la manière dont nous sommes capables de rejoindre, d'être avec, de marcher, et pas simplement d'avoir une impression ou un avis à distance et qui nous entraîne à accueillir, à rejoindre et à accueillir. Enfin, autant des mots, vous voyez, qui peuvent être importants à laisser jouer dans notre esprit et dans notre cœur, ce que nous vivons doit nous lier ou doit nous relier à d'autres. Hein, et qu'est-ce qu'il en est concrètement? Et qu'est-ce qui nous permet à travers ça de rejoindre des personnes et d'entendre ce qui les travaille profondément? Accueillir le meilleur de l'autre et le faire vraiment, ce qui demande quelque peu de se dessaisir de soi-même. Jean-Christophe nous parlait du don, hein, donner sa vie. Donner sa vie, c'est pas partir en guerre en se sacrifiant sa vie. C'est être capable, peut-être plutôt, de se dessaisir de soi pour laisser de la place à l'autre. Voilà, et donc, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles, dans nos lieux de travail, dans nos relations, dans tout ce qui fait les liens de nos existences, quel chemin nous avons à vivre, et qu'est-ce que nous vivons déjà, sans doute, hein, pour être moins propriétaires de nous-mêmes, pour moins se saisir de nous-mêmes, de nos certitudes, de nos convictions, de nos habitudes, de nos manières de faire, et pour être un peu plus dans une capacité d'accueil et d'attitude de ce qu'est l'autre, de ce que sont les autres, et de la richesse qu'ils nous partagent. Alors il me semble que, au moins pour ce que j'en connais, mais je pense que ça doit se poursuivre de la même manière, je crois que la vie d'équipe, que vous connaissez les uns et les autres, et plus largement la vie d'un mouvement comme la CI, est un lieu assez précieux pour l'apprentissage de cela. Si ça ne va pas de soi, il faut s'aider à le vivre. Si ça ne va pas de soi, c'est qu'il y a des résistances en nous. Et quand on est plusieurs à s'attacher, à se permettre d'accueillir la vie des autres avec bienveillance, ça ouvre des chemins. Et il me semble que l'équipe, c'est d'abord un peu ce lieu premier, quoi. On prend le temps de se rencontrer, on prend le temps de s'arrêter, et de s'arrêter longtemps, et de s'arrêter régulièrement, et peu à peu d'apprendre à, non seulement à parler, mais d'apprendre à écouter, d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à le respecter, d'apprendre à entendre ce qu'il veut nous dire parfois, au-delà des mots qu'il utilise pour parler de sa vie. Hein, les mots sont toujours, ou sont souvent insuffisants pour dire ce qui nous travaille un peu en profondeur. Et ce lieu-là est vraiment un lieu, et quand même une chance fantastique. J'espère que vous le mesurez ou que vous l'imaginez. Et c'est un peu comme un trésor, mais qui n'est pas fait pour soi. C'est pas j'ai de la chance, je suis en équipe et c'est très bien. C'est aussi un lieu qui j'en suis persuadé, ou je le souhaite, vient façonner pour nous une attitude par rapport à d'autres. Si l'équipe est un lieu source, qui nous permet de nous accueillir dans cette vérité-là, et du coup d'être bienveillant pour d'autres, et d'éprouver la bienveillance que d'autres peuvent avoir par rapport à ma vie, et qui nous permet de regarder nos vies ensemble, eh bien cela ne peut pas être sans se répercuter dans ma manière dont je vis avec d'autres, je les rencontre, et je peux prolonger ou déployer cette même attitude par rapport à d'autres. Voilà, et puis je le dirai aussi par rapport à notre aspect, je crois que la vie de l'Église dans sa grande diversité, et en particulier ce qui est aussi la vie paroissiale ou les réseaux ecclésiaux que nous connaissons les uns et les autres, sont traversés par les mêmes enjeux, quoi. Et donc je suis persuadé que ce que vous portez ou ce que vous cherchez à porter à partir des équipes d'ACI et de votre vie en territoire d'ACI, que ces lieux-là, cette expérience-là est aussi quelque chose qui est assez précieuse dans la vie paroissiale. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une paroisse qu'on est davantage prêt à s'accueillir, qu'il n'y a pas des camps à soi, qu'il n'y a pas des groupes qui se situent les uns par rapport aux autres, et que le service de la communion, qui est une des tâches importante du ministère ordonné et des évêques en particulier, que ce service de la communion, c'est aussi important qu'on y prenne notre part les uns et les autres. Voilà, donc je trouve que l'élargissement de cette dynamique-là, de bienveillance ou d'hospitalité, elle se déploie à la fois dans notre manière de rejoindre d'autres personnes, mais elle peut tout à fait aussi se déployer au sein même de la vie de l'Église.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Catherine qui peut témoigner, réagir à ce qu'a dit à la fois Jean-Christophe et Père Fonlu.
Merci. Voilà, Roman, où je suis. Donc, je viens de Strasbourg et je suis en ACI depuis une vingtaine d'années et coordinatrice depuis quelques années sur le territoire de Strasbourg.
Tu entends.
Voilà, on m'a demandé de témoigner sur qu'est-ce que faire église et comment je vois les gens de l'ACI de mon territoire faire église. Et c'est vrai que cette question, à la réunion de rentrée, qui était très classique, on va dire, hein, contrairement à ce dont on nous a parlé tout à l'heure, à la réunion de rentrée, on s'était posé cette question, qu'est-ce que c'est que faire église? Qu'est-ce que cela veut dire? Trois points étaient ressortis. C'est d'abord faire communauté pour prier et célébrer. C'est essayer de vivre en chrétien, s'engager à la suite de Jésus. Et c'était témoigner d'une espérance. Certains, je reprends ce que disait le père Fonlup, certains avaient dit ben, faire église, c'est ce qu'on vit en équipe. Hein. Je rejoins tout à fait cette proposition-là, cette bienveillance que l'on a en équipe, vous la connaissez tous, et ça permet de faire église. Voilà, alors. Des fois, pour les gens qui ne sont pas d'Alsace, on dit « Ah oui, mais en Alsace, c'est un peu différent, l'Église, c'est différent. » Non, ce n'est pas différent. C'est comme partout. L'Église, elle est tiraillée, comme partout, entre parfois un courant social, je vais dire, les gens de la CI se retrouvent bien, et puis un courant un peu plus identitaire. C'est vrai à Strasbourg comme ailleurs. Et du coup, je perçois, en réfléchissant à ça, je perçois une manière différente qu'ont les membres de la CI de faire église actuellement par rapport à ce qui se vivait peut-être il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, on ne se posait pas trop de questions pour savoir comment on allait faire la réunion de rentrée. On ne se posait pas trop de questions pour savoir qui on allait trouver comme accompagnateur. Et on se posait moins de questions pour savoir, pour dire il faut absolument retrouver des jeunes. Non, voilà, ça venait un peu tout seul. Voilà, tout ça, ça a disparu comme partout, rassurez-vous. Et maintenant, je sens les membres de la CI faire église différemment. Je sens un changement. Ils veulent avoir leur place dans l'église, mais ils changent de posture. Ils veulent être à la fois plus acteurs et plus accueillants. Alors, acteurs, j'ai repéré 5 points. Acteur parce que une volonté, je trouve une volonté encore plus grande parmi les membres de la CI du territoire de s'engager dans des actions de solidarité au quotidien, en particulier à Strasbourg, au niveau des réfugiés irakiens, au niveau des mineurs isolés, une participation au cercle du silence, comme bénévole à Caritas. Partout, je suis frappée par le nombre de membres de la CI qui sont présents et par là, ils témoignent d'une espérance et comme disait le père Wau, d'une présence. Un deuxième point qui m'a marqué, c'est une envie de rejoindre les membres des autres mouvements. Je dois reconnaître que quand je suis arrivée comme coordinatrice, ce n'était pas ma préoccupation principale. Aujourd'hui, ça l'est. Ça l'est parce que on a à être avec les autres présences, on a à travailler avec les autres, on s'y enrichit, et on accueille aussi ce qui est complètement différent de nous. Alors, quelques petits exemples. La semaine dernière encore, je préparais avec l'aide du DEMAF ce qu'on appelle le jubilé de Saint-Odile. Et donc, on devait avoir un grand temps proposé à tous les mouvements. C'est vrai qu'au départ, on m'a dit « Ah non, on ne va pas aller encore à Saint-Odile, voilà. Bon. » Mais si, en fait, si. On y va, et non seulement on y va, mais on participe activement à la préparation. Voilà. Et je crois que notre présence, elle est hyper importante. Ça, c'est un gros changement. L'année dernière, on a préparé de la même façon avec le collectif Ensemble pour l'Europe. Un événement sur Strasbourg. Un troisième point, c'est un attrait des membres de la CI pour les autres confessions, en particulier les protestants. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a une demande dans nos équipes, chez un certain nombre de nos membres, d'approfondir la parole de Dieu. Et peut-être que nos frères protestants ont bien des choses à nous apprendre. En tout cas, il existe sur Strasbourg des temps de prière communs, œcuméniques. Et là, c'est vrai que les membres de la CI sont relativement présents. Un quatrième point, c'est un désir d'accueillir toujours plus dans nos équipes des personnes qui sont assez loin de l'Église. Dernièrement, dans mon équipe, je parlais de mon intervention d'aujourd'hui, et une dame a dit « Écoute, il faut absolument que tu parles de moi, alors je vais le faire. » Avec son mari, ils sont entrés en équipe au mois de septembre. Son mari est tout à fait dans l'Église, dans l'institution. Et elle est croyante, mais elle me dit « Il ne faut pas me parler d'Église. Hein. Moi, je veux bien venir avec vous, mais ne parlez pas d'Église. » Et on a dit « Bah, viens. » Et l'autre jour, elle m'a dit « Mais si vous saviez le bien que ça me fait, je suis accueillie, je peux parler. » Et elle nous apporte un regard complètement décalé et elle nous fait nous poser des questions. Souvent, elle nous dit « Regardez comment vous faites. » Et ça, c'est une grande richesse. Et je pense que de plus en plus, les équipes sont prêtes à accueillir des gens comme ça. Et le dernier point que j'ai noté, c'est vrai que parfois, les membres de la CI ne sont pas toujours à l'aise, en particulier avec notre jeune clergé qui n'est pas toujours prêt à proposer d'abord une vie d'équipe, mais plus un certain nombre de manifestations, les adorations, les confessions, tout ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours, je reconnais, ce n'est pas toujours ma tasse de thé, et pour d'autres non plus, mais on n'est pas là à baisser les bras. Parce que ce que je remarque à l'inverse, c'est que du coup, beaucoup de gens prennent des initiatives. Ils ne les auraient pas prises avant. C'est par exemple, dans notre secteur, les prières de Thésée, qui ont été initiées après la rencontre de Thésée à Strasbourg il y a quelques années. Et il y a des gens, et beaucoup de gens de la CELI participent à ça, des gens qui disent, il faut continuer, même si le clergé ne suit pas. Voilà, nous, on continue. Il y a des groupes, on a à Strasbourg, ce qu'on appelle Saveurs d'Évangile, donc des groupes de partage sur l'Évangile que l'on peut faire spontanément, comme ça. Dans notre paroisse, ça se développe, et beaucoup de gens de la CELI sont à l'initiative, puisque nous, on a un peu l'habitude, justement, de partager sur l'Évangile. Et à cette occasion, à Strasbourg, il y a ce qu'on appelle la messe qui prend son temps, une fois par mois. Donc, à la place de l'homélie, c'est un temps de partage. Et actuellement, ça s'est porté par la communauté vie chrétienne. Et l'autre jour, il y a un membre de la CI qui me fait part de ça. Il me dit, mais la CI, on aurait toute notre place, là. Voilà. Donc, ça a interrogé la coordinatrice que je suis. Et je me dis, pourquoi cela pourrait être un projet de territoire? Donc, la question était, quelle est notre posture d'ouverture? Comment accueillons-nous ce qui vient de l'extérieur? J'ai le sentiment que, même si nous accueillons encore mal, ou insuffisamment, les membres de la CI, maintenant, tendent vers d'abord plus d'humilité et en même temps une plus grande attention aux autres, une plus grande ouverture et, dans le thème d'enquête de cette année, un pas de plus pour le bien de tous.
Merci Catherine. Donc, je retiendrai ce premier... Ce que je retiendrai de ce premier échange, c'est la présence, l'accueil, le respect, la bienveillance vis-à-vis de ce qui est des réalités de vie dont nous sommes finalement à la fois proches et loin. Et donc l'importance de l'articulation avec l'autre axe, l'autre priorité qu'on abordera cet après-midi, de faire société. C'est dans la mesure où nous sommes, et Catherine vient de redire, engagés aux côtés d'autres personnes, dans nos milieux de vie, que nous pouvons avoir une proposition, nous pouvons être présents, nous pouvons accueillir ce qui se fait. Nous avons voulu creuser une deuxième dimension dans cet aspect du faire Église, qui a déjà été un petit peu abordé, autour de la place de l'Écriture et de la Bible. À quel moment, qu'est-ce qui se passe quand finalement nous lisons l'écriture, les écritures, quand nous les méditons, qu'est-ce qui est en jeu? Et donc je vais redonner la parole à Jean-Christophe.
Merci. Je voudrais souligner ça, quel est le propre de la tradition dans Dei Verbum au numéro 8, ils définissent le propre de la tradition, c'est de rendre l'écriture continuellement opérante. Donc déjà, dans Dei Verbum, au Concile Vatican II, c'est inscrit « rendre l'écriture continuellement opérante ». Voilà le propre de la tradition. Alors maintenant, en quoi l'écriture, comment l'écriture devient opérante? L'écriture devient opérante quand elle devient parole de Dieu. L'écriture devient opérante quand elle devient parole de Dieu, quand elle me parle. Mais quand est-ce qu'elle me parle? Eh bien, l'écriture devient parole de Dieu quand je la médite. Je la médite, je la lis et je la relis. Et soudain, alors ça c'est bizarre, mais soudain, je commence à comprendre que ce n'est plus moi qui suis en train de lire l'écriture, mais c'est l'écriture qui est en train de me lire. Ce n'est plus moi qui suis en train de lire l'écriture, mais c'est l'écriture qui est en train de me lire. C'est l'écriture qui est en train d'accueillir tous mes événements, heureux et malheureux, et elle transforme tous ces événements, les uns à côté des autres, en une histoire, en une histoire sainte, en une histoire de libération, en une histoire de relèvement. Je pense que c'est la force de l'écriture, c'est de transformer nos événements heureux et malheureux en une histoire, je dirais en une histoire exodique. Pas dit exotique, mais exodique, en histoire de libération. La liberté n'est pas un concept, la liberté est l'affaire d'une histoire à écrire, d'une histoire de libération. Concrètement, deuxièmement, j'irais remettre évidemment la place de la parole au centre, déjà dans l'Église interne, la remettre au centre. La parole de Dieu ne prépare pas au sacrement. C'était Louis-Marie Chauvet qui disait ça. La parole de Dieu ne prépare pas au sacrement. La parole de Dieu devient sacrement. C'est la parole de Dieu qui fait advenir une présence. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de sacrement sans parole. Les sacrements sans parole, non. Même le sacrement de réconciliation, on doit ouvrir justement la parole entre les deux personnes. La parole est là. Donc déjà, c'est bien la parole qui est au centre, c'est pas le prêtre qui est au centre. Le prêtre est au service de la communauté, et non la communauté au service du prêtre. Ce qui est l'herbe fraîche, c'est pas les paroles du prêtre, mais c'est bien l'évangile. C'est ça qui est notre herbe fraîche. D'ailleurs, ministre, je le répète souvent, mais ça vient du latin minus, hein, il faut le rappeler de temps en temps. Donc voilà. Et puis, si l'intérêt, justement, pourquoi il y a des personnes, même si, alors effectivement, il y a une égalité baptismale, ça c'est évident. Alors pourquoi certains sont ordonnés? Alors ils ne sont pas ordonnés parce qu'ils sont meilleurs que les autres, pas du tout. Mais s'ils sont ordonnés, c'est pour manifester une certaine altérité. Or, qu'est-ce que l'altérité? Le propre de l'altérité, je dirais là pour, entre le prêtre et la communauté, mais on peut dire même dans un couple, hein, avec ma femme, mon mari, quel est le propre de l'altérité? Le propre de l'altérité, donc évidemment, c'est pas de dominer, évidemment, mais c'est pas non plus de compléter. Le but, le propre de l'altérité, c'est pas de permettre une complémentarité, ce n'est pas de permettre de compléter un manque d'être. Ma femme, mon mari n'est pas là pour compléter mon manque d'aide. Le prêtre n'est pas là pour compléter un manque d'être pour la communauté. L'altérité, le but de l'altérité, c'est de révéler sans cesse ma non-totalité. c'est de révéler sans cesse ma non-totalité. Et ça, c'est le risque de tout sujet, même d'une communauté, c'est de devenir un sujet, moi le premier, d'être totalitaire, totalisant. Je n'ai besoin de personne, je suis complet, même un couple. À travers deux, ils ont l'impression d'être complets. Ben non. L'intérêt de l'altérité, c'est de casser, d'ouvrir, on va dire plutôt, de mettre une brèche dans cette totalité-là. On est un peuple en marche, toujours en marche. Et l'altérité est là pour nous mettre en quête. Toujours de casser notre cercle fermé. Et toujours être en quête, pas être abouti, accompli. Sinon, on est mort. Pourquoi il y a l'un et l'autre testament, même dans l'écriture, il y a une altérité. Pour justement montrer justement qu'on est toujours en quête, en marche. Donc sinon, ben voilà, le risque c'est de faire des communautés ou des sujets qui sentent le refermer, le renfermer. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout, quoi. Donc c'est pas le prêtre au centre, même s'il a toute sa place, mais c'est bien la parole au centre. Et d'ailleurs, dans toutes les célébrations, le mot célébrer en grec vient, c'est aineo. Aineo qui signifie mettre en récit. Donc une célébrer, une personne qui est célèbre, on la met en récit. Ben, une célébration, c'est une mise en récit. Donc d'où l'importance de la parole. Elle a toute sa place dans toute la liturgie. Maintenant, la parole à l'externe. Là, en interne. Maintenant, à l'externe. Comment, justement, dire la parole de Dieu dans notre société? Eh bien, justement, à travers notre présence, devenons ce que nous recevons. Quand on a communié, devenons ce que nous recevons. Eh bien, devenons cette présence d'évangile. Nous-mêmes, faisons chair. Devenons cette présence d'évangile. Une présence d'évangile qui va sentir, comme dirait le pape, la brebis, quoi. Qui va aussi sentir la société. Donc on doit être à la fois habité d'évangile et à la fois habité des questions des gens, de la société. L'un ne va pas sans l'autre. Et nous, notre but, en étant présence d'évangile dans la société, c'est pas de faire de l'événementiel. Il y en a plein de l'événementiel dans la société. C'est bon, on en a assez. C'est pas de faire de l'événementiel, mais c'est de rendre présent, à travers notre présence, de notre présence d'évangile, habité d'évangile, de nous rendre présent aux événements que les gens vivent. D'être présent aux événements heureux et malheureux que les gens vivent dans la société pour les transformer, comme l'écriture, pour les transformer en une histoire, faire de leurs événements heureux et malheureux, et à travers notre présence d'évangile, bien les transformer leurs événements en une histoire de relèvement, en une histoire de libération, je dirais, en une histoire sensée. Une histoire qui a un sens commun, un sens communicable à tous. Commun au sens de communicable à tous, du sens partageable à tous. Faire de leurs événements, heureux et malheureux, une histoire sensée, une histoire communicable à tous, qui crée de la vie en eux-mêmes, mais aussi pour tous. La vie est vivante quand on crée de la vie en soi et autour de soi, pas l'un sans l'autre. Et donc, leur histoire doit être sensée pour eux, mais aussi pour les autres. Et là, elle est communicable à tous, leur histoire. Elle devient, je dirais, du pain communicable, du pain partageable à tous, du pain nourrissant pour tout le monde. Donc, c'est à nous, bah, justement, d'écrire ces histoires à travers notre présence d'évangile, en étant présence d'évangile, à travers notre style. D'ailleurs, le style, ça a la même racine que stylo. Le style, stylo. J'écris des histoires, une histoire de libération à travers mon style. À travers le style, c'est pas une mode, c'est un mode d'être. C'est pas une mode, c'est un mode d'être. C'est-à-dire une présence qui va sentir bon l'évangile et qui va sentir bon les questions des gens. Et donc, voilà, bah, à travers notre présence, eh bien, on va essayer d'écrire avec notre stylo, notre style, mais on va essayer d'écrire une histoire sensée avec tout le monde. Alors, il s'agit d'être d'une part habité d'évangile, mais je dirais d'autre part, pour boucler, il s'agit d'être aussi, alors là je me tourne vers les évêques ou les prêtres, d'être habilité à, pas seulement habité, être habilité à, voilà, par l'institution pour être envoyé non pas au nom de soi-même, mais au nom de Jésus-Christ. Voilà, désolé pour le temps.
C'est bon.
Merci Jean-Christophe. Oui, je surveille le temps parce qu'on va avoir un petit échange aussi avec les personnes, enfin avec la salle. Je vais donc donner tout de suite la parole.
Oui, merci. Moi, je reprendrai ça en soulignant que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins, ça veut dire que nous ne sommes pas sans histoire, nous ne sommes pas sans parents, nous ne sommes pas sans tradition. Ce qui est vrai à la fois humainement, dans notre histoire humaine, sociétale et dans l'histoire d'humanité, mais ce qui est vrai aussi dans notre histoire croyante. Et un des lieux qui nous permet de vérifier que nous ne sommes pas orphelins, c'est effectivement que nous est transmis le livre de la parole de Dieu. Ce livre qui nous transmet un certain nombre d'événements, de récits, d'histoires, ce livre qui est un peu une bibliothèque, mais qui nous permet peu à peu de mesurer comment, à travers l'histoire de l'humanité, ou du moins d'une portion de cette humanité, Dieu a dit quelque chose aux hommes, Dieu a dit quelque chose à un peuple, et Dieu a manifesté sa bienveillance à ce peuple. Vous voyez ce que je veux suggérer à travers ça, c'est-à-dire que l'Écriture, en particulier le Premier Testament, bien, nous parle de cette longue découverte d'une proximité, d'un compagnonnage de Dieu avec les hommes, avec un peuple qu'il se choisit, avec qui il noue une alliance et avec qui il marche. Et la présence de Jésus au milieu des hommes n'est qu'une manière, d'une certaine façon, de venir concrétiser, densifier et marquer, sceller hein, ce mystère de cette alliance de Dieu à travers les hommes. Donc quand nous ouvrons l'Écriture, quand nous lisons l'Écriture, essayons de ne pas la lire comme un lieu qui nous parlerait d'une manière un peu étonnante et magique de l'intervention de Dieu extraordinaire dans les événements de nos vies, mais essayons plutôt d'entendre comment ceux qui nous l'ont transmise nous permettent de percevoir cette perception de la proximité de Dieu qui marche avec eux et de Dieu qui marche avec nous. Et cette perfection, elle est parfois tellement étonnante qu'on la rencontre de manière un peu extraordinaire. Et quand on la rencontre de manière extraordinaire, on peut la relire, nous, si on ne fait pas ce travail, comme quelque chose d'un peu magique et de surprenant, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que quand on ouvre l'Écriture, on a besoin d'un temps d'appropriation pour découvrir que c'est bien une parole qui nous transmet ce que Dieu dit aux hommes, ce que Dieu dit à son peuple. Et peut-être que la meilleure manière de vivre ce temps d'appropriation pour lire l'Écriture, c'est de la lire avec nos propres vies, avec nos propres histoires, avec ce que nous partageons. J'espère que vous avez souvent fait l'expérience, en tout cas je trouve que c'est toujours une expérience très stimulante de voir la manière dont un texte de l'Écriture peut nous parler différemment quand on le prend comme tel, je dirais un peu à froid, on le lit et puis on essaie de se demander ce qu'il nous dit. Et puis des fois il nous dit quelques petites choses et puis d'autres fois ça va être plutôt hermétique, on a du mal à le laisser nous rejoindre ou à l'accueillir véritablement. Et à l'inverse, l'expérience qu'on peut faire avec le même texte, quand on le lit par exemple, si vous vivez ça en équipe, à la fin d'un temps de partage en équipe, et où, d'une certaine manière, comme naturellement, l'accueil de cette parole va être déterminé par ce que vous avez partagé précédemment de vos vies, hein, et de ce que vous avez échangé autour de ça. Et à ce moment-là, la parole va parler autrement, quoi. Parce qu'on la reçoit dans un contexte, et on la laisse à la fois éclairer le contexte de nos vies qu'on a pu partager, comme ce que nous avons partagé de nos vies nous fait rentrer autrement dans le texte que nous accueillons, quoi. Voilà. Et je trouve que là, il y a une expérience croyante tout à fait fondamentale qui nous aide à comprendre que Dieu n'intervient pas extérieurement dans nos histoires. Il ne va pas faire tout d'un coup qu'on soit pas contaminé par le coronavirus, ou que sinon ça serait difficile pour ceux qui vont l'être, vous voyez. Mais comprendre comment, dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons d'heureux, ou dans ce que nous traversons de difficile, il marche avec nous, et qu'est-ce que nous dit sa proximité, et qu'est-ce que nous dit sa présence, une fois encore sa présence bienveillante. L'Écriture ne cesse de nous dire cela, alors parfois dans des styles, dans des modèles, dans des manières un peu complexes, et il nous faut avoir quelques clés qui peuvent nous aider à le décrypter, mais elle ne cesse de nous dire cela, et elle nous le dit d'autant plus que nous en faisons la vérification aujourd'hui. Et je crois que la place de l'Écriture, c'est une manière d'accueillir ce trésor pour nous aider à percevoir et aller rechercher comment nos vies aujourd'hui sont accueillies par ce même trésor de la présence de Dieu. Et puis que l'Écriture, elle est aussi cette ressource qui nous permet d'entendre que quand nous racontons nos vies et que nous cherchons un sens à nos vies, eh bien nous ne nous racontons pas des histoires, parce que d'autres ont fait ce travail précédemment, parce que d'autres nous l'ont transmis en mémoire, en tradition, et parce que d'autres nous invitent à faire confiance que dans nos vies, Dieu est proche et qu'il peut être recherché, qu'il peut être perçu, que parfois il peut être nommé. Voilà, donc je trouve que dans un partage croyant, qui tend à vouloir être croyant de la vie et des événements de nos vies, ou des événements de la vie de nos sociétés, il y a cet enjeu d'une relation et d'une circulation entre l'Écriture, la parole de Dieu, hein, cette parole d'homme qui devient parole de Dieu, parce qu'elle nous dit que Dieu marche avec nous, et d'un autre côté, la parole de nos vies est quelque chose de très important, hein, qui donne à la fois une force étonnante à l'Écriture, et qui donne aussi une force étonnante à nos propres vies.
Merci beaucoup, Père. Et puis je donne aussi la parole à Catherine.
Oui, j'ai l'impression que on va passer d'un peu haut à un peu plus bas, mais bon, voilà.
Non, voilà. Je viens de dire le contraire, justement.
Voilà, non, ça m'a fait réfléchir, en particulier ce qu'a dit le Père Hugo sur ce n'est plus moi qui suis en train de lire l'Écriture, qui est en train de me lire. Jean-Christophe. Ce n'est plus moi qui suis en train de lire, mais l'Écriture qui est en train de me lire. Et je reprends ça parce que je voulais vous témoigner un petit peu quelque chose sur ce qu'on vit dans l'équipe territoriale quand on se rencontre. On n'est pas très nombreux, 4 ou 5. Des fois, l'ordre du jour, il est super chargé. On se dit, oh là là, on est pressé, il est déjà à 8h30, à 10h, on va finir. Bon. Mais on commence, on s'est astreint toujours à commencer par la lecture de l'Évangile du jour et à partager sur cette page. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est un meilleur début de rencontre que simplement de se dire voilà ce qu'il faudrait faire ou voilà ce qu'on a vécu depuis la dernière fois. Et voilà. Parce que effectivement, c'est vraiment très surprenant, à chaque fois, on se dit, ben, ça touche nos vies. Ce qu'on vient de lire, ce petit passage d'Évangile qu'on vient de lire, ben, ça me rappelle ce que j'ai vécu la semaine dernière, voilà ce que j'ai vécu hier, voilà quel est mon souci. On est 4 ou 5, et je vous assure que ce temps de partage, des fois on se dit, ah mais maintenant on arrête, mais qu'est-ce qu'on a pu se dire de vraiment intéressant. Et voilà, je voulais vous témoigner ça, parce que ça me marque toujours. Hein, toujours au début, les premières secondes, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on prend le texte d'Évangile. Et voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler, bon, ça, je pense que c'est un peu partout pareil. Il y a des équipes qui prennent du temps pour la méditation, d'autres qui n'en prennent jamais. En équipe de veilleurs, on a parlé de cette situation, on a même proposé, mais ça, c'est un projet qui n'a pas encore abouti, proposer à des gens qui sont dans des équipes où on ne pratique jamais ce temps de méditation de se retrouver, hein, entre ACI. Voilà. Par contre, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que nous avons quelques équipes jeunes Et cette semaine, j'étais à la rencontre des accompagnateurs. Donc, notre aumônier territorial réunit les accompagnateurs à peu près une fois par trimestre. J'assiste à cette rencontre. Et je m'aperçois que dans les équipes jeunes, c'est très difficile. Les équipes jeunes ne prennent pas ce temps de méditation. Le refusent ou le mettent de côté. La grosse question, c'est est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par manque de formation ? Un peu les deux, sûrement. Et je pense que l'ACI a un gros travail à faire auprès des plus jeunes. Et il a été évoqué, je m'arrêterai là, ça a été évoqué à notre réunion cette semaine des accompagnateurs. Mais par exemple, cette année, les textes sur Joseph, ben, c'est très bien pour les équipes qui savent. Pour les jeunes, c'est trop déconnecté de l'enquête. On ne peut pas faire de lien facilement. Et c'est un appel que je lance un petit peu de la part des accompagnateurs là, que j'ai eu cette semaine, de dire peut-être ce serait bien qu'il y ait des choses plus concrètes, plus proches de l'enquête, pour passer de la parole de Dieu à l'enquête et à nos vies. Voilà.
Merci beaucoup Catherine. Alors, d'ailleurs sur ce dernier point, on a rajouté dans le document les défis en jeu dans la partie faire église, cet aspect de transmission de la foi. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société... Dans les plus jeunes générations, ben, il y a des références qui n'existent plus, donc il faut les reconstruire. Et donc, ça doit être un souci, sans doute, à la fois dans la vie d'équipe, mais aussi au niveau des territoires. Puis je souligne deux autres choses, c'est comment je fais le lien avec la dernière, avec le cinquième axe des défis en jeu sur la visibilité et la communication. C'est bien les réflexions de Jean-Christophe et du Père Fonlup, on voit bien que c'est articulé. Dans cet axe faire église, il y a articulé avec faire société, on se l'a dit tout à l'heure, mais il y a articulé aussi avec la visibilité, la communication, comme disait Jean-Christophe. On ne cherche pas à faire de l'événementiel, on cherche à rejoindre des personnes, et donc à la fois il faut qu'on témoigne d'une expérience de vie et des questions, ça s'articule avec les questions des personnes que nous souhaitons rejoindre. Et donc ça renvoie à la question qu'on a abordée hier aussi sur les comptes rendus et leur relecture. Les comptes rendus et la relecture, c'est pas simplement pour que ça tourne, je dirais, caricaturé, en circuit fermé vers un retour vers les équipes. Non, c'est de faire ce que disait Jean-Christophe, de produire avec un stylo, un récit, une mise en récit, des révisions de vie, des échanges d'équipes, des histoires personnelles, et d'en produire une histoire collective qui puisse donner du sens à ce que nous sommes, nous, milieux indépendants aujourd'hui, qu'on puisse le dire. On a eu des débats sur l'identité de la CI. Ça, c'est au cœur de la question d'identité. C'est comment aujourd'hui on est capable de traduire qui nous sommes et de le faire à partir de la vie d'équipe, des histoires, des personnes qui sont vécues. Alors, on va prendre un petit temps maintenant sur l'échange. On vous propose, c'est pour ça qu'on est en table, de prendre 5 minutes par table pour prendre une ou deux questions. Et puis on fera deux échanges avec les intervenants en vous donnant la parole très rapidement, hein, c'est-à-dire que ça sera surtout pour soit des remarques, mais surtout les deux questions par table, et de manière à ce qu'ils puissent avoir un petit peu de temps pour répondre. On doit avoir fini à midi et demi. On vous laisse donc 5 minutes.
Ils sont en carrefour de table là, voilà. Pendant 5 minutes. J'ai entendu, ça va, tu arrives à temps à peu près ce que les autres disent?
Oui.
Oui, quand même. Bon, bah c'est bon.
Okay. Oui, j'en pense.
Bon, bah c'est bien. En tout cas, très très bien. C'est plus poil dans le sujet. Ouais, ouais.
Non.
Comment? Allô? Oui, oui, je t'entends, bébé. Je dis, c'est vraiment... Non, 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 actuellement, c'est uniquement moi. C'est pas la salle. Non, non, c'est très, très bien. C'est vraiment pile poil le sujet.
Ouais, ouais, j'ai tiré 3 coups à chaque fois.
Ouais, ouais, mais j'ai... Non, non, mais c'est bien. Non, c'est clair. Et puis, tu es pédagogue, tout ça, donc... Et les points forts, toi, Marc a repris, chaque fois, ça correspond.
Ben là, il y a des choses
encore à dire. Oui, oui, oui.
Mais je les ai mis là.
Voilà.
Il y a d'autres choses à dire, mais je les ai mises là.
Voilà.
Des questions.
En fonction des questions. Ouais, exactement. Ok.
Ouais,
ça...
Je m'adapte. Hein, mais Marc, il n'y a pas besoin de lui dire deux fois. Hein,
non, non.
À Marc.
Non, 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 non.
Tout de suite, il enregistre. Hein,
ouais, 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 ça, c'est vrai. Ouais, ouais.
Et puis carbone. Hein. ils sont comme ça. C'est pas mon
charisme. Ah ouais, ben moi c'est pas non plus, mais non, c'est vrai. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Non, non, mais ça marche bien. Voilà, on a une bonne réflexion. Hier soir, c'est une bonne. Bon, hier soir, c'est. Ils ont voté sur le bilan moral de l'année écoulée, puis des dernières années. Donc, bon, tout ça, c'est. Puis ce matin, donc, il y avait la présentation de. Bah, de à partir du projet que j'ai envoyé, la scène, le document. Donc, il y a la présentation de ce document. Et puis, les trois tables rondes, c'est pour déployer un peu le trois points forts du document, quoi. Le faire église, faire société, puis l'accompagnement ce soir. Voilà. Donc, après, ils votent là-dessus. Et c'est l'orientation pour les 5 ans à venir, quoi. Voilà. Donc là, c'est d'une certaine manière une réflexion un peu de fond, mais en même temps, avec Catherine, tu vois, c'est aussi comment concrètement des choses se vivent de ça. Et puis voilà, donc l'idée, c'est de concrétiser ces pensées-là, ça reste pas de la théorie. Voilà.
Ben oui.
Oui, ben bien entendu. Ah ben non, oui, ben c'est ça. Oui, mais quand tu fais que de la théorie, que la pratique n'est pas articulée en même temps, ben ça marche pas. Hein. Ouais, ouais. Ah ben oui. Ah ben oui, non, puis c'est à partir de la pratique, oui, je suis d'accord, il y a une dialectique entre tout à fait. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà.
C'est comme ça qu'on peut mûrir des idées, quoi.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, 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 ah oui, non, non, mais ah ben, je vais te dire. Non, non, pour l'instant, ils sont au carrefour. Donc. Quel temps vous avez, vous, aujourd'hui? Chez nous, c'est couvert. Hier, on avait grand, grand soleil. Comment? Ah ouais. Oui. Oui, ben pareil, ici à Angers, c'est pareil. On a eu une averse ce matin, en Pentecôte. Et puis, maintenant, il y a des nuages. On aperçoit des petits carrés de ciel bleu, pas beaucoup. Mais... Bon, mais ça va, hein, c'est fait. Voilà, non, mais après, on aura le temps de se revoir à l'occasion pour rediscuter de tout l'ensemble. Alors, on enregistre pour essayer de voir... si on pourra refaire des notes comme autrefois, je ne sais pas. Enfin, il y a des gens qui ont pris des notes. Hein. Françoise, qui avait pris beaucoup de notes autrefois, elle fait aujourd'hui encore. Donc, voilà. Donc on verra ce qu'on pourra, si on peut retraduire, on verra bien. C'est pas complètement décidé, mais je pense que ça vaudra le coup si on peut quand même.
Non, mais je pense que moi, avec que là, les gens, c'est, tu vois, quand tu présentes l'évangile, être appliqué l'évangile, et puis avec des questions de société.
Ben, ah, ben ça,
c'est exactement
la définition. Elle essaie, il cherche des définitions, ben, on pourrait prendre ça, hein. Présence d'évangile habité par les sociétés. Vraiment, c'est ça. Ben, bien sûr.
Oui, il y a 3 heures ensemble.
Oui, oui, oui. Oui, mais tu verras, en fonction, tu glisseras quelques points. Mais dans le groupe qui est là, comme je te disais, bon, je pense qu'il y en a une petite moitié qui t'a entendu déjà. Mais les autres, c'est quand même un peu neuf. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas entendu sous cette forme-là. Enfin, ils ont quand même lu dans le courrier ce qu'on avait mis dans le courrier. Hein. Donc, normalement, ils ont déjà une petite idée. Ils ne sont pas complètement... Mais de l'entendre, c'est pas pareil. Hein. Ça fait... Ça résonne...
Moi, c'est la parole. C'est vraiment le truc. L'enquête, c'est bien.
Ouais, ouais, c'est bien, oui. Ouais. Ah oui, ben oui, parce que c'est ça. D'où. Ah oui, oui.
Ah mais non, c'est
quoi ? D'où l'intérêt de l'oral dans les formations, dans les cours. Hein, tu sais. Quand on parle de l'école pour la mission aussi, tu vois. Où on veut faire des trucs à distance, etc., ou sur papier, c'est pas la même chose que d'être ici avec quelqu'un et de dialoguer, d'interagir. Et il faut, je dis pas qu'il ne faut pas utiliser des moyens comme ça, il en faut sûrement, mais je veux dire que c'est pas miser uniquement là-dessus. pense que. Moi, je l'ai vérifié avec l'enseignement plusieurs fois. Je me rends bien compte. Qu'as-tu eu, Nathanaël, l'autre soir? Oui, oui, le parcours, ouais, national, ouais. Ouais. Elle a intégré des idées, oui, de tout ça, ouais. Oui. Ah ben c'est sûr. Oui. Oui, j'ai remarqué ça. Oui, j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai. Oui.
Et toi, tu m'as dit, ils ont apprécié. Et bien, elle me disait pourquoi ça a été répété.
On va proposer.
Les autres n'avaient pas intégré. Elle l'avait intégré.
On a bien 8 tables là où on en a 8.
Ouais. Alors, non mais c'est intéressant, hein, ça m'étonne.
Je vous laisse faire à la limite, choisissez 4 tables. Hein.
Voilà, on en coûte les questions.
Pardon.
Questions. Donc,
on va reprendre ensemble.
On redémarre.
Bernadette, nous redémarre. Voilà. Alors, je vais donner la parole à 4 tables, juste une minute, hein, le plus rapidement possible. Bon. Expliquer pour que ce soit compréhensible, mais une ou deux questions, éventuellement une remarque, sur lesquelles vont rebondir ensuite répondre Jean-Christophe, Père Fonlup et Catherine. Et alors, j'ai oublié tout à l'heure de présenter Jean-Christophe.
Ah, c'est la première question.
Problème du Skype, ça. Donc Jean-Christophe, il pourra dire quelques mots s'il le souhaite. C'est donc, il fait une thèse de théologie avec Christophe Théobald, donc sur qui travaille notamment sur différents terrains dans la Creuse, notamment sur cette pastorale de l'hospitalité.
Il est prêtre de la mission
de France. Et il est prêtre de la mission de France, comme l'est également Bernard.
Je suis associé.
Associé.
Voilà. Et maraîcher.
Et Jean-Christophe est aussi maraîcher à côté de Dourdan ou à Dourdan.
Voilà. Oui, parce qu'il n'est pas de la mission de France, on travaille.
Alors, vas-y Marie. Il faut parler bien fort pour que Jean-Christophe entende.
Bien en face du micro, micro très proche.
Alors, la question qui s'est posée à moi et à une personne de notre équipe, c'est la rencontre, enfin, la visite à Rome avec sa petite fille qui lui dit tout de go, dans une église, je ne crois, tu sais, grand-mère, je ne crois en rien. Alors, notre amie a été très surprise, a réagi, et puis elle nous en a parlé, et ça l'a fortement touché. La question c'est comment fait-on, quelle réponse fait-on à des jeunes qui, par provocation, hein, parce que là c'était vraiment provocant, tu sais, je ne crois en rien, mais convaincu que, enfin, pour moi je l'ai interprété, grand-mère, dis-moi en quoi tu crois. Mais je ne sais pas quelle est la bonne réponse à faire.
Alors, deuxième table.
Alors, deuxième table.
Nous, on a évoqué la difficulté pour les jeunes d'entrer dans la méditation. Et la question, c'est comment permettre à des plus jeunes d'entrer dans la méditation.
Troisième table.
Alors, nous on a été intéressés par l'histoire du sourcier. Donc, comment devenir sourcier? Comment faire sortir la tête?
Nous, on a eu une remarque déjà pour dire que l'enquête et la méditation, c'est un souhait, enfin, ce n'est pas en lien. Donc là, c'était
plus près, plus près. Plus près de la tête, on n'en parle rien du tout. Vous pensez que Jean-Christophe t'entend?
Il faut lécher le micro.
Tu lèches le micro.
C'est pour. C'est pour dire que le pas de lien entre la méditation et le thème d'enquête, c'est en décalage, donc c'est un souhait et c'est volontaire. Donc il faut ne pas essayer pour avoir deux entrées possibles. Et sinon, on a plus entre nous discuté du problème pour les accompagnateurs d'accompagner par rapport à la méditation, par rapport à des groupes qui éventuellement n'ont pas de... Et donc, comment se former, sachant qu'en même temps, la démarche de méditation d'ACI, c'est vraiment en lien avec la relecture de vie, donc c'est quand même quelque chose d'assez spécifique.
Bien, alors, je vais redonner la parole à... Peut-être pour faire mon mémoire, mais sinon on peut changer l'ordre.
Est-ce que Marc, j'ai une dernière question. Excuse-moi. Nous, on s'est posé la question de comment, en dehors de l'Église, c'est-à-dire dans nos engagements de citoyens, dans les assos, dans notre vie professionnelle et tout, comment on montre qu'on est chrétien, comment on montre qu'on fait partie de l'Église. Moi, je suis intéressée par cette question et je pense qu'on est plusieurs. Voilà.
Tu as compris, Jean-Christophe?
Il y a beaucoup de questions.
Tu veux? Je donne la parole déjà au Père Fonlu.
Voilà, c'est bien des grands-parents et des petites filles, mais ça nous aide à percevoir une grande vérité, mais qu'on avait peut-être un peu oublié, c'est qu'on ne n'est pas chrétien, mais qu'on le devient. C'est une phrase de Tertullien. Donc c'est une phrase qui est dans la tradition d'Église depuis longtemps, mais qu'on a un peu oublié. Moi, je suis évêque d'un diocèse où on était chrétien, où tout le monde était chrétien. Et vraiment, si on ne l'était pas, on était montré du doigt, quoi. Et aujourd'hui, on ne n'est plus chrétien. Et donc, il faut apprendre à le devenir. Et ce n'est pas forcément étonnant, même si c'est une souffrance ou une question, en tout cas, pour beaucoup de grands-parents, pour beaucoup, beaucoup de grands-parents, de se dire comment se fait-il que mes enfants, mes petits-enfants, qui pourtant ont plein de valeur, plein de générosité, plein de richesse, hein, ne consomment pas cet horizon de la foi. Et je ferai le lien un petit peu avec la deuxième question par rapport à la difficulté d'accéder, d'entrer dans la méditation pour les jeunes. Et je me disais, mais il faudrait un peu le vérifier ou en débattre, parce que je ne suis pas sûr tout à fait ce que je veux dire, mais comment les jeunes aussi entrent dans un regard sur leur vie. Vous voyez, je dis ça parce que la vie va vite, et la vie va très vite pour les jeunes générations. Et donc, il y a de multiples choses. Hein. Il y a la vie personnelle, la vie affective, la vie professionnelle, la vie de relation, la vie avec les enfants, si on commence à en avoir et si on les accompagne. On peut passer de multiples choses et, d'une certaine manière, sans avoir véritablement de lieu qui soit organisé ou pas, pour se dire, mais c'est quoi ma vie, d'où elle vient, où elle va, qu'est-ce qui la fonde, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la bouscule, qu'est-ce qui, etc. quoi. Et il me semble que pouvoir faire ce travail-là de relecture, ce que vous appelez ou ce qu'on peut appeler la relecture de sa vie en apportant un peu des réponses à toutes ces questions, ça nous fait goûter à la densité de notre vie. Et goûter à la densité de notre vie, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, ça va nous aider à rentrer dans la densité de l'écriture. Et ça va nous aider à prendre un texte, non pas simplement comme en le recevant extérieurement et de manière un peu formelle, mais petit à petit à rentrer dans ce qui nous exprime profondément. Alors, je ne sais pas si ma lecture est juste, parce que ce n'est pas si bienveillant que ça par rapport aux jeunes, donc il ne faut pas que je sois contradictoire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je pense que la rapidité de la vie aujourd'hui et sa grande multiplicité n'aident pas forcément à cette intériorité-là. Et du coup, en particulier pour les jeunes générations qui n'auraient peut-être pas connu, comme vous connaissez ou vous avez connu, des lieux qui aident à cette intériorité, elles sont plus en temps ou en souffrance par rapport à ça. Bon, mais je lance ça pour le débattre.
Donc Jean-Christophe, je te repasse la parole. En essayant d'être relativement rapide pour avoir la deuxième série de questions.
Voilà, c'est bon. Vas-y.
J'ai pas tout entendu. concernant le je crois en rien.
Ça, on le retrouve pas seulement pour des jeunes, enfin, on le retrouve pour beaucoup de personnes. Je pense que il s'agit d'agir à travers une attitude qui consiste même pas, je dirais, à accueillir l'autre. Alors, je vais être... Mais j'irais, enfin, en fait, c'est pour préciser qu'est-ce que j'entends par accueillir l'autre. Mais il ne s'agit pas d'accueillir l'autre, parce que là, lui, celui en face, il nous dit bah, moi, je ne prends rien, quoi, donc laisse tomber, il n'y a rien. Mais il s'agit de, non pas d'accueillir l'autre, mais de demander l'hospitalité à l'autre. On est dans une église, on est une église maintenant en minorité. On n'est plus dans une église qui est déjà un christianisme installé. Voilà, non, ça c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans un christianisme installé. On est dans une église en minorité, en diaspora. D'où cette attitude qui consiste à demander l'hospitalité aux autres dans notre société. Pour aller justement au cœur, pour rejoindre, avoir une présence et pour rejoindre l'intime de l'autre. Mais il faut demander je pense que notre travail, c'est à travers notre manière d'être, c'est une manière d'être qui demande l'hospitalité. C'est pas simplement accueillir les autres, on a tout, on va, mais les autres ne viendront pas. Les gens vont être indifférents à l'église, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, je veux dire, si on attend d'accueillir les autres, eh ben, on va attendre longtemps. Je veux dire, il faut plutôt aller rejoindre les gens là où ils sont. Marc ou le père Fondu, je sais plus, je suis un peu perdu, il disait rejoindre ceux dont l'église est loin. C'était Monseigneur Riobé qui disait ça. Il ne s'agit pas de rejoindre ceux qui sont loin de l'église, mais ceux dont l'Église est loin. C'est nous qui sommes loin d'eux. Donc quelqu'un qui ne croit en rien, mais parce qu'il a déjà ce souci de nous... Il nous dit, je ne crois pas en ce que toi tu crois, quoi. Mais c'est à nous à faire cette démarche de voir en quoi cette personne croit. Donc pas forcément en ce que nous croyons, mais d'aller faire ressortir ce en quoi cette personne croit. Moi, mes collègues de travail, ils ne croient pas du tout en Dieu. Et bien, à travers mon travail, c'est une manière, je viens leur demander l'hospitalité de m'accueillir tel que je suis, et je ne fais pas d'affichage, mais en discutant, et bien, je me rends compte que on arrive à toucher le vrai du vrai, le fond du fond, quoi. À discuter de la vérité, quoi. Ce qui nous met en vérité. C'est même plus la vérité. Quelle est la vérité? Mais on est en vérité. Mais je pense que c'est ça notre travail de... Quelqu'un qui croit en rien, oui, il ne croit pas en la même chose que nous, oui. Mais à travers ce « je crois en rien », il y a quand même une foi, quoi, en quelque chose. Maintenant, le tout, c'est de savoir en quoi il croit. Je ne sais pas si je réponds bien. Après, il y avait aussi être sourcier. Comment être sourcier? Je dirais, une personne est toujours intéressante. Une personne est toujours intéressante à condition de l'écouter. Forcément, ouais. Une personne est toujours intéressante quand on l'écoute. Donc, je pense que nous, notre travail, c'est justement bien d'écouter, de faire ressortir, en le faisant parler, de faire ressortir ce qui habite la personne, le meilleur de la personne. Voilà, il faut accélérer. Après, faire le lien... Pardon ?
Oui, avance un petit peu.
D'accord.
Oui, attends.
Oui, non, j'en fais ça, c'est juste pour qu'on puisse avoir... à travers nos relectures, faire pas les agendas. Enfin, les agendas, ça veut dire les choses à faire.
La relecture.
Mais je pense que transformer nos agendas, nos choses à faire, en latin agenda, les choses à faire, en vivenda, les choses à vivre. Sortir nos vivenda, pas nos agendas, mais nos vivenda, quoi. Pour faire le lien entre la parole et puis notre société, quoi. Ce qu'on vit dans notre société. Bon, je réponds trop brièvement, mais bon.
Alors, méditer.
Bon, voilà.
Comment on montre que l'on est dans les muscles?
Jean-Christophe, oui, vas-y. Pour Jean-Christophe, il y avait une dernière question.
Est-ce qu'on veut montrer qu'on est signe de l'Église ou est-ce qu'on veut montrer le signe du Christ? Qu'est-ce qu'on est signe de quoi? De l'Église ou du Christ? Bah, moi, je préfère être signe du Christ, quoi, avant tout. Donc, à travers, justement, notre présence, quoi. Et après, qui va après interpeller, quoi. Qui va interpeller, qui va dire, mais quelle est ta source? Parce que nous, les hommes, ne sont que des ressources. Or, une ressource, Marc pourrait mieux le dire que moi, les ressources sont épuisables. La source, elle, est inépuisable. Donc, mais justement, à travers notre manière d'être, quand on se dit, mais tiens, c'est bizarre, mais qu'est-ce qui t'habite, quoi? Mais pas être signe de l'Église, être avant tout signe du Christ.
Donc, d'ailleurs, juste une incidente pour faire le lien toujours avec le texte sur la Samaritaine. Sur l'hospitalité, la première question du Christ à la Samaritaine, c'est « Donne-moi de l'eau ». Donc, il rentre dans une hospitalité. Alors, on va faire la deuxième série très vite.
Juste, alors ça marche, oui.
Bien en
juste
face.
Une remarque, si vous voulez, on s'est dit que le fait, on a été sensible à ce que vous avez dit sur l'humilité, parce que on se dit peut-être que le fait que l'Église soit minoritaire aujourd'hui, elle nous oblige justement à cette humilité-là, et que c'est peut-être une grâce pour avancer autrement. Et dans l'avancer autrement, on notait que c'était aussi peut-être une conversion personnelle et collective à avoir que de se dire « je ne suis pas là pour apporter quelque chose à l'autre, mais je suis là pour reconnaître qui peut m'apporter quelque chose ». Et c'est aussi un petit changement dans notre tête. Et puis, une question est posée par rapport à l'accueil des musulmans. On a parlé d'interreligieux, donc on s'est dit il y a deux situations, soit...
Vous entendez ? Plus proche du micro.
Oui, le corona. Soit les musulmans répondent à une invitation des chrétiens, donc ils savent où ils sont, donc là, il faut se situer quand même, il faut pouvoir échanger avec eux quand même. Et puis, dans la société, nous sommes confrontés à la présence de personnes musulmanes que l'on peut rencontrer dans l'action. Là. Donc là, il y a deux façons d'être chrétien auprès de musulmans et comment le vivre, c'est ça, sereinement, avec humilité.
D'autres questions dans les tables qui ne sont pas
questions.
Il y a encore des...
Il y a plus de questions? Si, un petit peu. Bon, alors.
Bah, du coup, ça
fonctionne
un peu.
Prends le micro parce qu'on entend, il n'entend pas.
Oui,
d'accord.
Deux petites choses, mais qui pourront se prolonger. Je pense que la première remarque est importante et elle souligne. C'est plus une remarque, il me semble, qu'une question. Parce que quand vous évoquez le fait que je suis moins là pour apporter quelque chose à l'autre que pour découvrir qu'il a quelque chose à m'apporter, quoi. Je trouve que ce renversement-là, qui est de l'ordre de la conversion, qui est de l'ordre du décentrement par rapport à moi, mais qui est de l'ordre de la capacité à accueillir l'autre, quel qu'il soit, est toujours à vivre et à revivre. C'est jamais acquis. Je ne vois pas comment ça pourrait être acquis un jour. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu fondamental. Et je crois qu'il y a bien des pages de l'Évangile qui peuvent nous aider à regarder le Christ de cette manière-là. Comment il est très souvent moins en posture d'apporter quelque chose que d'accueillir et de s'étonner de ce qu'il accueille et d'être déplacé et entraîné plus loin par ce qu'il accueille. Femme, ta foi est grande, etc., etc. Voilà, il y a cet aspect-là qu'on pourrait prolonger, mais qui me paraît quand même assez important et qui nous invite à travailler un peu cette attitude de fond, quoi, sur... j'ai quelque chose à accueillir de l'autre parce que je crois aussi qu'il est habité et qu'il est habité par plus grand que lui. Et que le Dieu auquel je crois, c'est aussi par l'autre ou par la rencontre avec l'autre que je vais en accueillir quelques mystères. Et quand vous parlez de la relation avec les musulmans, ben c'est une illustration concrète, mais qui, d'une certaine manière, est une illustration parmi d'autres. Rencontrer des musulmans, c'est rencontrer des personnes, et c'est rencontrer des personnes croyantes. Et c'est rencontrer des personnes croyantes qui expriment leur foi ou qui accèdent au mystère de Dieu par un chemin ou par une tradition qui n'est pas la mienne. Et donc, je peux très bien me dire, ils n'ont pas tout compris, hein, ou ils ont encore du chemin à faire pour comprendre ce que moi j'ai compris, hein, voilà, et faire tout ce qu'il me semblera devoir faire pour accélérer le chemin qu'ils pourraient faire pour comprendre comme je comprends. Ou bien je peux aussi me dire, ils me disent quelque chose d'étonnant, de surprenant, qui, par bien des aspects, n'est pas totalement compréhensible pour moi, dans mon histoire, dans ma culture et dans la manière dont la foi est façonnée pour moi. Mais ils me disent aussi quelque chose d'un accès au mystère de Dieu qui peut m'ouvrir à quelque chose. Voilà. Et si je me situe de cette manière-là, eh bien, ça va ouvrir des possibles, hein, qui ne va pas faire que je vais devenir musulman, mais qui va peut-être me permettre et m'inviter à accueillir quelque chose de leur propre histoire et de leur propre tradition, avec une foi encore bienveillance et avec une capacité à accueillir d'eux quelque chose du mystère de Dieu qu'ils cherchent, comme moi aussi je cherche ce Dieu-là. Et j'ajouterai simplement que accueillir d'autres de cette manière-là, ça ne nous appelle pas à la relativité ou à la fragilité lorsque nous sommes, mais au contraire, ça nous oblige d'autant plus à être solides dans ce que nous sommes. C'est-à-dire que je rencontrer l'autre en vérité me demande, moi, de me tenir vivant et debout en vérité. Et plus je serai, non pas solide au sens de bétonné, mais puis je serai solide au sens d'une espèce de solidité intérieure et d'assurance dans ce que je porte et dans ce qui m'habite et dans ce que je suis et les éléments qui me façonnent, et plus je serai effectivement capable de rencontrer l'autre en vérité. Je pense que dans la rencontre interreligieuse, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui sont en jeu. Il ne s'agit pas de relativiser son adhésion à la foi au Christ pour être capable de rencontrer l'autre. Il faut au contraire être solide dans sa rencontre avec le Christ et dans sa foi pour rencontrer l'autre et à ce moment-là être capable de le recevoir et de l'écouter dans sa propre foi. Donc c'est répondre rapidement, mais je crois que ça me paraît des choses un peu fondamentales dans ce chemin-là.
Nous sommes tous contraints à la rapidité. Catherine, tu voulais reprendre quelque chose sur l'humilité.
Ça va ? Oui, je voulais reprendre l'humilité, mais le père Fonlup a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Enfin, j'avais témoigné tout à l'heure de ce que les membres de la CI me semblaient aller vers plus d'humilité. Je pense que c'est Francine qui le relevait, c'était très important. Juste une petite chose à propos de l'islam et de l'interreligieux. J'ai récemment assisté à une petite pièce de théâtre qui s'appelle François et le Sultan. Et j'ai pris conscience là que, en fait, les chrétiens et les musulmans, on avait chacun notre vérité et qu'on ne pouvait pas là, en fait, se comprendre vraiment, mais on pouvait juste s'accueillir. Hein, c'est ce que le père Paul disait. Et ça, je voulais vous en témoigner. Pour moi, c'était un peu une révélation, quoi. Voilà, on a chacun notre vérité et on a à être solide chacun sur sa vérité.
Alors, Jean-Christophe, je te laisse répondre aux dernières questions.
Ouais. Alors, rapidement, concernant l'humilité, effectivement, moi, en tant que maraîcher, parce que l'humilité vient du latin humus, qui signifie la terre. Donc, évidemment, je suis sensible à cet aspect-là. Ça vous paraît bête, mais toucher l'humus, toucher la terre, c'est toucher l'humain. Ça a la même étymologie, quoi. Donc avoir de l'humilité, ça permet de se mettre à la hauteur de l'homme, quoi, pour rejoindre justement les événements de chacun, l'intime de tout homme, la profondeur de tout homme. Donc l'humilité, c'est le chemin, évident en théorie. Concernant les musulmans, je pense ou musulman ou quelqu'un d'une autre religion ou qui n'est pas croyant. Je pense qu'on n'est pas forcément entre nous. Il faut dégager une autre fraternité. Et on n'est pas forcément un frère de sang, avec aussi mon collègue de travail, tout ça. Mais je dirais on est frère de grâce. Qu'est-ce qui coule dans nos veines? C'est pas forcément le même sang, mais c'est il y a une grâce qui coule dans nos veines. Et le tout, bah, c'est de récolter ces grâces qui coulent, cette grâce qui coule dans nos veines, qu'ils soient chrétiens ou non, et puis après d'en rendre grâce. Rendre grâce, rendre ces grâces récoltées dans la société et rendre à Dieu ce qu'elles viennent de lui. Après, on n'a pas forcément la même croyance, effectivement, on n'a pas la même foi, mais je pense qu'en tant que chrétien, pour nous, la vérité n'est pas à un tel. La vérité n'est pas à toi, à moi ou à nous. La vérité de Jésus-Christ est entre nous. La vérité n'est pas relative, comme disait Père Fonluc. La vérité de Jésus-Christ est relationnelle. La vérité n'est pas relative, elle est relationnelle. La vérité de Jésus-Christ. Donc, d'où l'importance, nous, en tant que chrétiens, notre foi, c'est de créer du lien. C'est la priorité, c'est de créer du lien. Parce que Jésus-Christ, c'est du lien, quoi. C'est de la relation. Donc, voilà, on s'engage à créer du lien. Et après, certains reconnaissent le Christ dans cette relation, d'autres non. Mais tous vivent la même joie. Et ça, c'est important. Nous, en tant que chrétiens, on est au service, la foi chrétienne, la foi christique, est au service de la foi humaine, de la confiance humaine. Toujours, on est au service. On n'est pas au-dessus. Si on reconnaît notre foi en raison d'une excellence, parce que sinon je serais bouddhiste ou je serais autre chose, enfin, mais j'estime que la relation avec Dieu en Jésus-Christ est excellente, mais c'est une excellence qualitative et non hiérarchique par rapport aux autres. Une excellence qualitative. C'est bon. Mais il y a une excellence, mais elle n'est que qualitative. Elle n'est pas au-dessus des autres, elle est au service des autres. Voilà.
Merci. Beaucoup Jean-Christophe. Bon, on arrive donc au terme de ce temps. Quelques petits mots de conclusion, de soutien. Donc, c'est important d'être engagé dans notre vie parce que c'est là où se crée l'hospitalité, l'accueil, le questionnement, moins dans la façon dont on peut se présenter, mais dans la façon dont on a à reconnaître, à accueillir et à créer du lien, comme le disait Jean-Christophe, non pas en surplomb, avec déjà des réponses, mais comment on crée du lien sur les questions qui se posent avec ceux qui nous entourent. On a aussi parlé, Jean-Christophe, dans la table ronde, avait développé sur le rôle du prêtre, et donc que ça, l'altérité, ça renvoie à la table ronde de cet après-midi sur l'accompagnement. On a aussi évoqué comment la méditation des Écritures conduit à produire de la parole. Ça renvoie à l'ensemble donc, des axes du plan d'orientation et donc ce n'est pas quelque chose de séquentiel. Vous voyez, quand on travaille sur un aspect, on travaille un petit peu sur tout et c'est ça qu'il faudra qu'on essaye de mettre en place. Je souligne aussi le fait que donc, voilà, faut qu'on sorte de, Père Fonluc le soulignait, de ce qu'on a à dire pour reconnaître. Et donc on est moins à défendre ou à présenter une identité qu'à vivre, à accompagner, à marcher. Et les personnes avec lesquelles nous serons en lien, en relation, vont reconnaître, eux, la CI, la parole, le Christ, la dimension. Et donc, on a moins à chercher à se présenter. Christophe le disait, on vit dans une société de l'événementiel, donc on est un peu pourri par l'idée de nous, il faut qu'on soit aussi brillant que les autres, la publicité, etc. Non, on a d'abord à marcher, à reconnaître, et on sera reconnu d'une certaine manière, et on est au service des personnes et de leur puissent reconnaître le Christ dans leur vie. Donc on termine sur cette note-là et on poursuit l'appropriation un petit peu des différents axes cet après-midi. Alors, si, une dernière chose avant de quitter Jean-Christophe. On s'est dit que dans le cadre de ce plan d'orientation, on a posé la question à Jean-Christophe si on pouvait entamer un travail sur plusieurs années avec quelques territoires, deux, trois territoires, pour travailler avec lui sur comment les territoires font vivre cette dimension du faire église, un peu les différents sujets qu'on a évoqués. Donc, voilà, on est venez nous voir. Ça sera un petit peu exigeant, c'est-à-dire que ça se construira dans la durée, mais ça sera extrêmement profitable, à la fois pour le territoire. On sera limité par les possibilités de Jean-Christophe, hein, parce qu'il est, il prépare une thèse, il a du travail, mais on doit arriver à faire ça. Et donc, venez nous voir si vous êtes volontaire pour travailler sur ça. Merci à Jean-Christophe.
Et ça sera profitable pour moi. Et ça sera profitable pour moi, pas que dans un sens.
Merci beaucoup et puis merci à tous.
C'est l'heure du déjeuner, donc on se retrouve à 14h15.
Bon, merci, hein.
Et vous pouvez d'ici là vous inscrire dans les ateliers.
On se téléphonera après.
Pas plus de 20 personnes par atelier. Et les gens du même diocèse.
Bah, là, on va aller en fin de journée. Mais plutôt en fin de journée.
Et cette semaine, sur les ateliers.
Non, c'est libre. Bon, ben à ce moment-là, plutôt vers la fin d'après-midi, j'imagine moins de choses, parce que là, j'ai encore des tables rondes, il y a tout ça. Voilà, merci, en tout cas, grand merci, c'est bien passé. C'est très bien passé. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Non, c'est très bien passé. C'est bien marché. Salut.
Bon, t'es content ?
Oh, non, je crois.